OK, on va commencer notre 47e leçon dans notre série sur le péché, les 10 commandements et la grâce. Alors aujourd'hui, on va regarder les objections au calvinisme, les arguments humains. Alors on peut classer ça en deux catégories. Il y a des gens qui s'objectent au calvinisme avec des arguments humains. Et dans d'autres leçons, on va regarder les arguments bibliques et on va les réfuter. Alors, comme on l'avait déjà mentionné dans les leçons précédentes, l'étude de la théologie calviniste est souvent abordée à partir de l'acronyme TULIP, à cause de sa commodité mémotechnique. Revoyons un peu rapidement ce que signifie chacune des lettres. Nous donnerons d'abord la signification des lettres en anglais, suivie de la traduction française. Alors, le T, c'est pour Total Depravity and Inability, donc dépravation ou corruption totale et impuissance de l'homme. Le U pour Unconditional Election, l'élection inconditionnelle. Le L pour Limited Atonement ou rédemption particulière. Le I pour Irresistible Grace ou grâce irrésistible. Le P pour Preservation and Perseverance of the Saints, pour préservation et persévérance des saints. Alors jusqu'ici, on a étudié brièvement les 5 points traditionnels du calvinisme. On sait que plusieurs ont des arguments qui sont amenés pour nier ou amoindrir la vérité de ces points-là. Alors, les arguments sont ordinairement de deux ordres, les arguments humains et les arguments bibliques. Alors, nous examinerons aujourd'hui les arguments humains qui sont apportés pour réfuter le calvinisme. Alors, si rien de nouveau, l'homme s'est toujours puissamment opposé à ce qu'on peut appeler les doctrines de la grâce ou calvinisme. Alors, les sources de cette opposition sont la chair, Satan et la raison. Alors, les formes d'opposition, on peut très bien les identifier. L'enseignement dans certaines écoles bibliques, certains pasteurs, des livres ou autres documents. Alors, cette opposition fait souvent appel aux émotions, plutôt que de privilégier l'étude des Saintes Écritures elles-mêmes dans leur ensemble. L'opposition est souvent très forte, violente, organisée et systématique. Le langage employé est souvent très dur et manquant de charité, mais je dois avouer que quand on regarde sur certains sites aussi qui font la promotion et la défense du calvinisme, on voit le même langage utilisé. Je pense que dans un sens ou dans l'autre, bien entendu, on manque aux enseignements des Écritures. Nous croyons qu'elle est basée sur l'ignorance, la rébellion contre l'enseignement de la Bible et parfois la mauvaise foi. Alors, cette opposition est centrée sur l'homme et mène souvent au relâchement. Ses résultats sont l'apostasie graduelle, une foi morte sans les œuvres et la glorification de l'homme. Alors, quels sont les arguments humains contre le calvinisme? On va les nommer, ensuite on va essayer de brièvement, bien sûr on ne peut pas aller en profondeur, mais on va essayer de brièvement les réfuter. Alors, plusieurs vont dire que le calvinisme, c'est la prédestination, ça serait du fatalisme. Alors, l'idée essentielle du fatalisme, c'est l'absolue certitude de tous les événements sans l'exercice de la liberté humaine. Le fatalisme est donc sans direction et elle comporte une nécessité aveugle qu'on attribue à une force inconnue et irrésistible. Dans le fatalisme, l'homme n'est pas libre et sa responsabilité est exclue. L'homme n'a aucun choix et ses actes sont au-delà de son contrôle. Donc, ce que les anglophones appellent « no self-determination ». Il n'y a pas de place dans le fatalisme pour la moralité. Souvent, la philosophie moderne qu'on voit souvent un petit peu partout aujourd'hui, le Nouvel Âge, enseigne souvent cette philosophie et elle se reflète dans certaines chansons populaires. Qu'on prenne par exemple « Let it be », des Beatles, c'est véritablement un chant qui dit « Peu importe ce qui arrive, laisse-le arriver parce que Ça fait partie des choses qui doivent arriver. Alors, c'est vraiment une philosophie fataliste qui est en arrière de tout cela. Alors, le fatalisme mène au scepticisme et au désespoir. Dans ce système philosophique, l'on fait de Dieu l'auteur du péché et la prière devient inutile puisque tout est inexorablement fixé. Ce système ne laisse pas de place pour un Dieu d'amour personnel. Alors, si on veut répondre à cette objection-là, l'idée essentielle de la prédestination, c'est l'absolue certitude de tous les événements futurs. La prédestination a une direction, la gloire de Dieu, et aussi le bien-être de son peuple. Elle est dirigée par un Dieu infiniment saint, sage, puissant et qui a tout décrété. La liberté de l'homme et sa responsabilité sont préservées parce que Dieu a décrété la liberté et la responsabilité. La prédestination laisse de la place pour la moralité et de la place pour la religion d'amour, de miséricorde, de sainteté, de justice et de sagesse. La fin de la prédestination est la gloire de Dieu, l'avancement de son royaume et aussi une assurance inébranlable. Dieu permet le péché, mais il n'en est pas la cause. La prière est nécessaire et utile. La différence essentielle avec le fatalisme, nous avons un Dieu d'amour personnel et infiniment parfait dans chacun de ses attributs. Deuxième objection qui est amenée, c'est que la prédestination serait, selon eux, inconsistante avec le libre arbitre et la responsabilité de l'homme. Alors, les ennemis du calvinisme affirment que la doctrine de l'élection supprime la liberté humaine et sa responsabilité. Leur axiome de départ est le suivant. L'incapacité, ce que les livres de théologie anglophone appellent « inability », selon eux, cette incapacité limite l'obligation. Ils disent que l'homme ne peut être obligé de répondre à ce qui est requis de lui s'il n'a pas la capacité de l'accomplir. Alors, la réponse à l'objection, on peut donner plusieurs raisons pourquoi l'homme est responsable. La première, le décret de Dieu concernant le péché n'est pas causal, mais permissif, directif, préventif et déterminatif. Alors, autrement dit, le péché, Dieu n'est pas la cause, mais il le permet et il l'emmène dans une direction, parfois pour prévenir et d'autres fois pour arriver à des fins que lui veut. Alors, la deuxième raison pourquoi l'homme est responsable, c'est la loi de Dieu et non son décret qui fixe les devoirs et les responsabilités de l'homme. Si on regarde, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29, ça dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Autrement dit, ce que Dieu a décidé d'avance concernant le sort de tous les hommes, ça fait partie de ce qu'ils appellent ici les choses cachées, sont à l'Éternel, on ne peut pas les savoir. Mais ce qui est révélé, c'est les Saintes Écritures, c'est le Décalogue, c'est la loi morale. Alors ça, c'est ça qui est notre boussole pour agir, autrement dit. La troisième raison pourquoi l'homme est responsable, alors, faut savoir que c'est le motif derrière le péché qui rend l'homme responsable. Je me souviens d'un exemple qu'on avait lu dans un volume. On parlait d'un chirurgien, par exemple, qui coupe le bras de quelqu'un. Alors, pourquoi il n'est pas coupable? C'est parce que c'est son intention, c'est de guérir ou d'enlever une gangrène ou quelque chose semblable. Mais si quelqu'un coupe le bras d'une autre personne pour le simple plaisir, entre guillemets, de le faire, bien sûr, c'est l'intention qui fait la différence. Alors, dans Jean, chapitre 3, verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, la quatrième raison, pourquoi l'homme est responsable? Chaque homme a péché en Adam. Alors, on pourrait élaborer longuement sur Romains 5, 12, mais une chose qui est à remarquer, si on regarde dans le grec, le temps du verbe, c'est un aoriste qui indique une action dans le passé. Donc, on était à quelque part dans cette action-là. Ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, le temps du verbe « ont péché », c'est vraiment ce que je viens de vous dire dans le grec, c'est un aoriste, donc qui indique une action dans le passé. Alors, ça dit « tous », donc « étaient dans l'action du passé d'avoir manqué à l'ordre de Dieu. » Alors, c'est l'homme qui est personnellement blâmé pour sa perte de capacité. La cinquième raison pourquoi l'homme est responsable, c'est que la responsabilité dépend de la connaissance. Alors, dans Romains, chapitre 1, versets 19 et 20, ça nous dit que la création elle-même, autrement dit, ce qui est autour de nous, ce qu'on peut observer avec nos yeux, alors ça dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et vous, les Écritures nous enseignent que l'homme, même sans la loi, est déjà juste par la création et a déjà des signes évidents. Quand on dit manifeste, c'est tellement évident que l'être humain ne peut pas le nier. Il peut bien essayer, mais ça dit dans les Écritures que ça les rend inexcusables. Dans Romains 2, versets 12 à 15, là, on a vraiment qu'est-ce qui rend aussi la connaissance, nous rend coupables. Alors, la loi de Dieu et la conscience. Alors, ici, on parle de la loi de Dieu qui est inscrite dans le cœur, dans sa conscience, et aussi la loi de Dieu qui est manifestée dans les Saintes Écritures. Alors, dans les versets 12 à 15, on en parle. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc l'homme est libre d'agir, mais bien entendu en harmonie avec sa nature et non dû à une contrainte extérieure, mais à cause de sa volonté qui est enchaînée au mal. Alors la troisième argument qui est amené, les arguments humains contre le calvinisme, c'est que ça dit, ils prétendent que la prédestination ferait de Dieu l'auteur du péché. Alors c'est assez facile à réfuter, seulement par un verset, mais il y en aurait plusieurs autres, Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Le péché ne se manifeste que par la volonté permissive de Dieu. Dieu le fait avec un but précis pour sa propre gloire. Le péché est inclus dans son plan général ce qu'on peut appeler la doctrine du décret ou des décrets. Quatrième argument qui est amené contre le calvinisme, c'est que la prédestination, selon eux, découragerait l'utilisation de moyens. Alors, on peut répondre à ça que nous sommes liés à l'utilisation des moyens de grâce. Par exemple, qu'on se souvienne dans l'Ancien Testament, la guérison de Néhéman, qui était un lépreux, Et la jeune fille d'Israël lui avait dit, va vers Naaman et fais ce qu'il va te dire et tu vas guérir. Et quand il est arrivé, le prophète lui a dit, va dans le fleuve, plonge-toi et écoute, mais et tu guériras. Et là, il était fâché. Il n'a pas assez proche, il est retourné dans son pays. Parce qu'il s'attendait à des simagrées, il s'attendait à des cérémonies, il s'attendait à une façon de procéder. Et à fin de compte, il s'est soumis et il a été guéri. Alors, le moyen que Dieu voulait que Naaman exprime sa confiance dans le Dieu d'Israël et aussi par l'intermédiaire de son prophète, c'était qu'il écoute ce que le prophète lui disait de faire, même si tout cela semblait complètement inutile de se plonger dans l'eau. Il avait répondu, moi, on a aussi des fleuves dans notre région, pourquoi que je suis venu ici juste pour ça? Alors, à partir du moment où il a donné sa foi, ça a fonctionné. Alors, on a cet exemple-là. Et aussi, Dieu, dans les Écritures, nous dit que le commandement de Dieu, par exemple, dans Marc 16, verset 15, quand il nous dit que, bien sûr, les personnes qui sont Dieu pourrait être sauvé, Dieu les connaît, mais quand même, il se sert de nous, des hommes, et nous devenons un moyen. Alors, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, les moyens sont rattachés à la fin. Celui qui sème, par exemple, va récolter. Celui qui demande va recevoir. Et celui qui cherche va trouver. Autre raison, c'est la promesse expresse de Dieu. Et dernière raison, l'instinct de l'homme, lorsqu'il se sent complètement incapable de quelque chose, le porte à demander de l'aide et à se soumettre à la dépendance et à la grâce humaine de Dieu. Par exemple, quand quelqu'un est dans un avion, il sait que l'avion va s'écraser. C'est même s'il se dit incroyant, bien sûr, dans son esprit, il va implorer, il va prier, et bien souvent il va faire des promesses, et à quelque part, il se soumet, il n'a pas le choix de se soumettre et de dépendre complètement de la grâce souveraine de Dieu, où Dieu permet qu'il atterrisse avec blessure ou pas de blessure, mais qu'il veuille pas, il se soumet à Dieu. Cinquième argument qui sont amenés par les ennemis du calvinisme, ils disent que la prédestination présenterait Dieu lui-même comme étant partial, donc exprimant une certaine forme de favoritisme. Alors quand on regarde dans Acte 10, verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Alors, comment qu'il y aurait juste ce verset-là? Ça serait déjà suffisant. Mais il y en a d'autres. Romains, chapitre 2, verset 11. « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Mais il y en a encore d'autres. Jacques 2, verset 1 à 9. Bien sûr, quand on fait une énumération de versets comme ça, ça ne veut pas dire qu'on a fait le tour, qu'on a tout sorti ce qu'il y avait à sortir. C'est juste dans le but d'illustrer que Dieu n'est pas partial. Alors, Jacques 2, versets 1 à 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outrègent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Alors, autre remarque qu'on peut faire concernant cette histoire de que Dieu serait présenté comme étant partial selon les ennemis du calvinisme. Alors, quand on regarde dans les Écritures, Dieu n'a pas sauvé Satan à cause de sa chute, ni les anges déchus qui ont chuté avec lui. Alors, ça, on n'en parle presque jamais. Alors, pourquoi Dieu a décidé de donner, de sauver les hommes? Ça, c'est sa décision. Alors, le choix de Dieu n'est pas déterminé par quoi que ce soit en ces hommes. Autrement dit, on l'a vu dans les leçons précédentes, Dieu n'a pas décidé de sauver une personne parce qu'il voyait que lui, dans le futur, finirait par avoir la foi en son Fils Jésus-Christ. C'était vraiment sur la base de sa volonté pure. Alors, autre question qu'on pourrait se poser par rapport à cette objection-là, c'est est-ce que Dieu était impartial lorsqu'il a choisi Israël? Il a choisi Israël sur l'ensemble de toutes les populations de la terre. Lorsqu'il a choisi Abraham pour qu'Abraham soit le père des croyants, est-ce que quand il avait choisi Cyrus pour que Cyrus devienne un instrument pour lui, est-ce que Dieu était impartial en faisant cela? Alors, bien sûr, la réponse est non. Alors, la quatrième observation qu'on peut faire concernant la question du favoritisme de Dieu. Alors, on sait, juste par l'observation, que Dieu ne traite pas tous les humains de la même manière. Par exemple, on regarde autour de nous, on voit des gens qui sont riches, on voit des gens qui sont pauvres. Est-ce que moi, j'ai décidé que je serais un Canadien, un Québécois? Est-ce qu'un autre a décidé qu'il serait un Indien, qu'il serait un Africain? Ce sont des choses qui sont hors de notre portée, hors de notre contrôle. Alors, il ne traite pas les êtres humains de la même façon. Si j'étais venu au monde aux Indes ou dans un pays pauvre d'Afrique, je ne serais pas le même homme que je suis présentement. Et c'est la même chose pour tous les hommes. La nationalité, on ne choisit pas de devenir, de naître français ou américain ou québécois, ou etc. Dieu nous place dans une circonstance particulière au moment de notre naissance. Et la même chose pour l'époque. J'aurais pu venir au monde au Moyen-Âge. Le Seigneur a permis que je vienne au monde au 20e siècle. La même chose pour les dons naturels. Dieu permet qu'une personne soit très intelligente, douée pour les arts, douée pour la musique, etc. La même chose pour la santé, certains viennent au monde en pleine santé, ils demeurent toute leur vie, d'autres viennent au monde très, on pourrait dire, hypothéqués concernant la santé. Alors Dieu ne traite pas les êtres humains de la même manière, mais il faut savoir que les Écritures nous enseignent que tout ce qu'il a décidé concernant le sort de tous les êtres humains est rempli de sagesse. Cinquième observation qu'on peut faire quant à cette objection, c'est que la partialité ne peut s'exercer que dans la sphère de la justice, donc des droits et des privilèges, et non dans la sphère de la grâce. Et sixième observation, Dieu est partial, mais non injustement partial. Alors la sixième objection, c'était que la prédestination, selon eux, découragerait la bonne moralité. Alors, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4, les Écritures nous disent « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Alors, ça détruit l'argument. Le calvinisme n'amène pas une baisse, décourage pas la moralité, parce que ça nous dit que les élus, Dieu les a élus pour qu'ils soient saints. Donc, et irrépréhensibles devant lui. La même chose pour Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 3, verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Les moyens, autant que la fin, ont été décrétés ou prédéterminés par Dieu. l'amour et la gratitude envers Dieu est la plus forte et la plus permanente base pour la moralité. Et les fruits du calvinisme sont évidents dans l'histoire. N'importe qui veut faire l'exercice peut regarder les fruits du calvinisme dans l'histoire. Donc les réformateurs, les puritains, les huguenots et bien d'autres sont des exemples, des manifestations de comment la doctrine de la grâce bien comprise amène pas au dérèglement et à la mauvaise moralité, bien au contraire. Alors, le théologien Lorraine Bettner, dans son livre « The Reformed Doctrine of Predestination », à la page 280, alors s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui lisent l'anglais, je ne saurais que trop recommander la lecture de ce livre-là, « The Reformed Doctrine of Predestination », c'est vraiment très, très, très bien. Alors, lui, il dit, je vais vous le dire en anglais, la phrase est courte, ensuite je la traduirai. « The practical effect of a belief is the real test of its soundness. » On pourrait traduire par « L'effet pratique d'une croyance est le test réel de sa justesse. » À la même page, la page 280 de « Reformed Doctrine of Predestination », Bettner mentionne qu'il n'y a pas eu un seul cas de divorce chez les puritains. Alors, je pense que ça parle fort. En effet, c'est exactement l'opposé de l'accusation qui est amenée par eux. Et dernière argumentation qui est amenée humainement, argumentation humaine, c'est que la prédestination présenterait l'offre du salut comme étant non sincère. Alors, la même objection s'applique également à la préscience de Dieu. Certains ne seront pas sauvés car la Bible le déclare. L'offre est-elle non sincère parce que ce fait nous est connu? Alors, si on est logique, on sait qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés parce que la Bible le déclare. Est-ce que ces gens-là, s'ils se sont fait offrir le salut, est-ce que le salut n'était pas sincère? Bien sûr, c'est faux. L'offre était sincère. Alors, l'offre est sincère. Seule sa dépravité, la dépravité inhérente et son refus de soumission au Seigneur Jésus-Christ le rend responsable. Pour illustrer, si je me plaçais sur un coin de rue et que j'aurais une pile de billets de 1 000 $ dans les mains et que j'en offrirais un billet à tous les passants et que la très grande majorité refuserait mon offre parce que croirait que c'est une farce ou quoi que ce soit, est-ce que ça rendrait mon offre non sincère? Bien sûr, si la personne aurait ramassé le billet, aurait été à la banque, il aurait dit « oui, c'est un vrai billet ». Alors, l'Évangile s'est présenté aux hommes et l'homme ne le reçoit pas, alors ça le rend lui-même responsable. Mais l'offre elle-même est sincère. Et dernier argument, c'est que la prédestination, selon eux, supposerait la prédestination des hommes perdus aux peines éternelles. Alors, on peut répondre à ça que le sort des hommes perdus n'est pas un décret positif, mais une permission divine. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire de cette très brève étude des arguments humains? Des arguments humains contre le calvinisme. Alors, la première, je dirais, soyons capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, comme les Écritures, comme le Nouveau Testament nous commandent de le faire. Dans Tite 1, verset 9, ça nous dit attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voyez-vous, l'Écriture ici met la responsabilité sur nous, les croyants, d'étudier les Écritures de manière à être capable de répondre à ce qu'on vient de dire là. Non seulement les arguments humains, mais aussi les arguments bibliques. J'ai bien peur que si on se promenait dans l'ensemble des églises qui se disent calvinistes dans le monde entier, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de chrétiens qui seraient capables de le faire. à la fois de répondre aux arguments humains et aussi, cependant, les Écritures sont bien claires ici, attacher la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin, dans le but d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, deuxième application, l'opposition à la sainte doctrine nous oblige à trois choses, à étudier, à affirmer et à enseigner. Alors, étudions mieux la vérité. Premièrement, ce qu'on vient de regarder, il y a des arguments humains qui sont apportés, il faut les connaître et il faut aussi être capable d'y répondre. Affirmons plus la vérité et on peut le faire par différents moyens, bien sûr par la prédication. Dans nos discussions avec d'autres chrétiens ou avec des personnes qui ne sont pas converties, dans nos écrits et aussi, ce qui n'est pas le moindre, par le témoignage de notre vie pratique quotidienne. Plus les gens vont voir un réel changement, une transformation dans ta vie de tous les jours, plus ils vont voir l'authenticité et la vérité de la doctrine de la grâce. Alors, bien sûr, il y a la prédication, les discussions, les écrits, mais aussi il y a le témoignage de la vie personnelle qui parfois parle aussi fort, sinon plus, que les écrits. Et troisième chose, donc ça nous oblige à étudier, à affirmer et aussi à enseigner clairement la vérité. Et tout cela peut se faire dans l'Église locale. Ça peut se faire aussi auprès des frères égarés ou aveugles ou ignorants. Et aussi par l'enseignement dans les écoles bibliques. Alors on peut regarder deux versets. Deux passages, c'est-à-dire 2 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il y a vraiment l'idée de la transmission de la vérité qui est une de nos responsabilités. 2 Timothée chapitre 2 versets 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors le Seigneur nous a donné plusieurs moyens de faire ces choses, les avertissements, les écrits, le soutien d'ouvriers fidèles, le soutien d'écoles bibliques fidèles, la prière, etc. Mettons-nous à l'œuvre pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.